Bonjour à tous. Une chasse à l'homme engagée depuis ce matin en Dordogne. Un ancien militaire lourdement armé a tiré sur des gendarmes, des voitures de gendarmerie et sur un hélicoptère participant aux recherches. L'individu de 25 ans serait retranché dans une forêt. Il avait été incarcéré pour violence conjugale. Il porte un bracelet électronique. Valérie Dejean dans un instant. Dans l'actualité également, la mise en garde d'Emmanuel Macron au Mali. La question d'un retrait de l'armée française se pose et une ligne rouge, des négociations entre la junte malienne et les djihadistes. Invité de ce journal, Antoine Glaser, journaliste et spécialiste de l'Afrique. Dans cette édition également, le français Benjamin Brière risque la peine de mort en Iran, où il sera jugé pour espionnage. Une manifestation cet après-midi à Paris pour protester contre la fin de la trêve hivernale et le début aujourd'hui de Roland-Garros. La météo orageuse au sud, des éclaircies au nord. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Une chasse à l'homme est donc engagée en ce moment en Dordogne. Un homme armé a ouvert le feu à plusieurs reprises sur des gendarmes, leur véhicule et un hélicoptère. L'individu, un ancien militaire de 25 ans, a été repéré. Il serait retranché dans une forêt près du village de Lardin-Saint-Lazare. Le village est confiné. Le GIGN, 210 gendarmes et deux hélicoptères sont mobilisés dans cette traque. Sur place, Valérie Dejean, France Bleu Périgord.
Depuis ce matin, 7h, la commune du Lardin est ville morte. Personne dans les rues, pas une voiture ne circule, sauf celle des gendarmes, il y en a beaucoup. Les accès sont bouclés tant que le forcené n'a pas été retrouvé. Ce jeune homme de 25 ans est dangereux, il a tiré sur les militaires à plusieurs reprises. Chaque fois qu'il a croisé leur chemin, coup de feu sur les pneus, coup de feu dans les vitres explosées. Un périmètre de sécurité a évidemment été mis en place. Il semble se cacher sur une zone estimée à 4 ou 5 kilomètres, zone boisée peut-être, armée visiblement d'un fusil de chasse. Cet ancien militaire connaît le maniement des armes. Voilà pourquoi 200 gendarmes ont été déployés, dont des membres du GIGN, une équipe cynophile. Deux hélicoptères continuent de survoler la zone pour essayer de localiser le forcené, déjà condamné pour des violences conjugales. Il sortait de prison, portait un bracelet électronique. Des négociateurs tentent de le raisonner lorsqu'ils sont en contact avec lui, sans grand succès pour le moment.
Valérie Dejean, France Bleu, Périgord. Cette menace maintenant, en forme d'agacement d'Emmanuel Macron vis-à-vis du Mali, la question d'un retrait de l'armée française au Mali se pose, annonce le président ce matin dans une interview au journal du dimanche. Emmanuel Macron, qui rentre à peine d'un voyage au Rwanda et en Afrique du Sud, fait passer ce message au moment où les dirigeants ouest-africains se réunissent à Ghana après le putsch militaire au Mali. Bonjour Christian Cheneau.
Bonjour.
Pour Emmanuel Macron, il y a une ligne rouge, la tentation au Mali de négocier avec les djihadistes.
Oui, parce que pour le président français, le nouvel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta, serait disposé à entamer un dialogue avec les groupes djihadistes pour acheter la paix, ce qui leur laisserait le champ libre dans le nord du Mali pour mener leurs activités terroristes et déstabiliser le Sahel. Scénario inimaginable pour l'opération Barkhane, l'islamisme radical avec nos soldats sur place, jamais de la vie, avertit Emmanuel Macron, qui ajoute qu'il ne restera pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni transition. Coup de bluff ou pas, Emmanuel Macron rappelle que la France n'a pas vocation à rester éternellement au Mali et que depuis 3 ans, il envisage un retrait des militaires français. Mais sur le terrain, les groupes djihadistes sont encore loin d'être éradiqués. La lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine avec un horizon de 10 à 15 ans, estime le général Lecointre, le chef d'état-major de l'armée. Comment ce carton jaune d'Emmanuel Macron sera-t-il reçu à Bamako? En tout cas, un bras de fer vient de commencer entre la France et la junte malienne.
Christian Cheneau, merci. Invité de ce journal, Antoine Glaser, journaliste et spécialiste de l'Afrique, dont le livre avec Pascal Hérault, Le piège africain de Macron, vient de paraître chez Fayard. Bonjour Antoine Glaser.
Bonjour.
Alors, l'éventualité de négociation entre la junte au Mali et les islamistes est inenvisageable pour Emmanuel Macron, alors qu'en 8 ans d'engagement au Mali au Sahel, 55 soldats français, 54 hommes et une femme ont été tués?
Oui, absolument. Ça veut dire, on voit bien que l'opération Barkhane est de plus en plus hors sol, en fait, par rapport aux réalités du terrain. C'est-à-dire, vous avez des militaires français dans un pays qui a connu un coup d'État au mois d'août. Et là, vous avez une sorte aussi de coup d'État dans un coup d'État, parce que là, un certain nombre de gens de la junte, finalement, ont vraiment pris le pouvoir, alors qu'il y avait un gouvernement, un semblant de gouvernement avec des civils. Et c'est une réalité qu'on voit bien que Emmanuel Macron est d'autant plus agacé, qu'il sait très bien qu'il y a déjà des négociations en cours avec des groupes armés. Et il a toujours expliqué aux dirigeants africains qu'il est comptable, évidemment, de la mort des soldats français. Et surtout, il voit bien que la France est totalement isolée. Je veux dire que les Européens après des coups d'État comme celui qui s'est produit au Mali vont certainement pas venir. Alors Emmanuel Macron parle toujours de troupes Europe, Europe-Afrique et que l'armée française n'est pas isolée, mais franchement,
elle est un peu seule.
Ça va être difficile de mobiliser les autres partenaires. Ouais.
Hein. Vous dites que les négociations sont en cours, elles ont débuté entre la junte et les djihadistes.
Elles ont débuté. Rappelez-vous la libération de Sophie Petronin. Il y avait quand même une négociation entre ce qu'on appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, M. Iyad Khali, qui est réfugié dans le nord du Mali. Et déjà, il y avait eu 200 djihadistes qui avaient été libérés. La France, évidemment, on n'est plus dans la période de la France-Afrique. La France ne maîtrise absolument pas tout ce qui se passe dans ces pays. Et c'est pour ça que Barkhane et les militaires français sont de plus en plus hors sol. Ils peuvent pas s'appuyer sur des armées africaines, en dehors de celle du Tchad. Et ils peuvent pas non plus s'appuyer sur leurs partenaires européens qui sont très inquiets de se retrouver dans des histoires franco-africaines à l'ancienne. Et donc, c'est vrai que les négociations ont démarré, puisque actuellement, le Mali contrôle, le pouvoir à Bamako contrôle environ un tiers de son territoire. Le reste, ce sont des groupes armés.
Antoine Glaser, l'enjeu de ces négociations entre le pouvoir militaire et les djihadistes, c'est on vous laisse tranquille dans le nord du pays, maître de vos trafics et de vos crimes contre une paix ou une trêve au Mali, c'est ça l'enjeu?
Oui, c'est ça. Ça veut dire il y a un certain nombre déjà. Vous savez, quand on parle de djihadistes, mais c'est surtout il y a des groupes armés. Il y a énormément de trafic. Il y a tout le nord du Mali. Il y a aussi bien sûr le grand acteur masqué de la région qui est l'Algérie. Je veux dire, il y a beaucoup en fait d'économie informelle et de trafic. Le djihadisme, évidemment, on profite de ces systèmes. Mais c'est une islamisation globale de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Personne ne le dit, mais il y a plus d'Occidentaux en Afrique de l'Ouest. Les djihadistes ont déjà gagné d'une certaine façon. Ils ont réussi à faire fuir tous les gens. Vous aviez des coopérations décentralisées. Vous aviez 700 ONG dans les pays comme le Burkina Faso. Et c'est vrai que vous avez une sorte d'islamisation globale, une sorte de retour, enfin, on ne va pas dire au 19e siècle, mais je veux dire, il y a une période, c'est une période historique qui est en train de se passer. C'est pas simplement comme ça, des groupes djihadistes, de Al-Qaïda, etc. Ce sont en plus des Maliens, hein. Il y a eu des Al-Qaïda, des Algériens, mais là on parle des franchisés, ça veut dire Epeul et Touareg, qui se sont associés avec des groupes terroristes algériens. Mais maintenant, il y a des négociations internes entre eux, ils contrôlent des villages, et enfin, comme il n'y a plus d'État dans ces régions, bien évidemment, ils remplacent l'État, ils font la justice, ils empêchent les écoles et les hauts niveaux d'éducation, ils font la loi dans ces régions.
Alors Antoine Glaser, dans votre livre, hein, Le piège africain de Macron, vous le dites, Emmanuel Macron ne veut plus que la France soit en première ligne.
Et d'abord, Emmanuel Macron, il dit que la France veut être en première ligne, mais c'est vrai que ça soit au moment de la mort d'Idriss Déby au Tchad, on l'a vu assis dans un fauteuil à côté on a l'impression qu'il a doublé une dynastie, même si ensuite il a fait un rétropédalage. Il a doublé le fils d'Idriss Déby. Puis on voit bien qu'il est au G5 Sahel au mois de février, on le voyait en visioconférence depuis Paris avec ses pairs africains qui étaient à N'Djamena. En même temps, il disait, la France ne peut plus être en première ligne, et puis en même temps, évidemment, on avait l'impression qu'il était le chef de l'ensemble des armées ouest-africaines, en disant « on va faire ci, on va faire ça ». Donc je veux dire, c'est vrai que là, on sent qu'il y a un vrai agacement, et il sent bien qu'il perd un peu la main, parce que voilà, je veux dire, on passe pas d'une période de la France-Afrique de 30 ans, de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin, vous changez pas ça avec le verbe. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a des réalités africaines. L'Afrique est totalement mondialisée. Et c'est ça qui énerve Emmanuel Macron, parce qu'il sait bien, il dit que les sentiments anti-français, c'est animé par les réseaux sociaux africains, mais avec des Turcs et des Russes qui les alimentent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute une période historique qui fait que, ben, pour les jeunes Africains, ils pensent que c'est la France qui est responsable. Et les propres dirigeants africains, eux, évidemment, ils encouragent quasiment les mouvements anti-français pour se légitimer pour leur propre souveraineté. Donc c'est pour ça que la France est vraiment... Et Emmanuel Macron, on sent son agacement parce que, voilà, pris entre le marteau et l'enclume.
Merci beaucoup, Antoine Glaser, journaliste et spécialiste de l'Afrique. Je rappelle l'apparition chez Fayard de votre livre avec Pascal Héroux, Le piège africain de Macron. Merci à vous. En Iran, le français Benjamin Brière sera jugé pour espionnage et propagande contre le pouvoir iranien. Benjamin Brière est détenu depuis un an en Iran, accusé d'être un espion pour avoir photographié des zones interdites avec un drone dans un parc naturel en Iran. Il avait été arrêté alors qu'il traversait la République islamique à bord d'un van en touriste à l'occasion d'un long voyage entamé en 2018. Récemment, sa sœur avait écrit à Emmanuel Macron pour obtenir la libération de son frère Olivier Poujade.
L'accusation pour espionnage contre Benjamin Brière signifie qu'il risque aujourd'hui une condamnation à la peine de mort. Une charge inconcevable pour son avocat français, maître Philippe Vallant. Ce jeune touriste français interpellé il y a un an n'a jamais envisagé autre chose que de traverser l'Iran à bord de son camion aménagé.
L'arrestation, elle était arbitraire et n'avait qu'une seule vocation, détenir un citoyen occidental comme monnaie d'échange dans d'éventuelles tractations. C'est pour cela que j'appelais le Quai d'Orsay, le gouvernement et président de la République a enfin peut-être se réveiller.
Il y a quelques jours, la sœur de Benjamin Brière a adressé une lettre au chef de l'État français et au ministère des Affaires étrangères pour leur demander d'agir, mais le silence des autorités françaises et les conditions de détention de Benjamin Brière en Iran plongent désormais ses proches dans une profonde inquiétude.
Il est incarcéré dans la prison de Mashhad, qui est répertoriée par rapport spécial des Nations Unies depuis 2013 comme un lieu de torture et un lieu dans lequel se sont déroulées des centaines d'exécutions extrajudiciaires, ce qui fait que l'inquiétude, elle est grandissante pour la situation de Benjamin.
Le renvoi de Benjamin Brière devant un tribunal révolutionnaire iranien et l'absence de réaction des autorités françaises laissent aujourd'hui penser qu'il se trouve désormais au centre d'un conflit entre les deux pays, l'objet d'une négociation qui le dépasse totalement.
Une pollution inquiétante est en cours au Sri Lanka. Un porte-conteneur est en flammes à 14 km des côtes. L'incendie dure depuis 10 jours. Le navire menace de se briser en deux. Le bateau transporte des tonnes de granulés de plastique. Et il y a un risque de pollution majeure dans l'océan Indien. Jackie Bonnemaison, porte-parole de l'association Robin des Bois.
Il y avait effectivement à bord 28 conteneurs pleins de granulés de plastique dont on fait des bouteilles ou des meubles de jardin. On a fait un calcul et sont partis à la mer déjà environ 10 milliards de granulés. 10 milliards.
On ne peut pas les récupérer ?
Ah non, on peut pas. Les sauveteurs vont pouvoir en récupérer une partie, mais ces stigmates vont dériver pendant des dizaines d'années dans l'océan Indien et servir de nourriture. Les poissons les récupèrent, les tortues marines les récupèrent. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'avenir de cette épave. Est-ce que Colombo va accepter de la prendre avec quand même quelques risques, mais beaucoup de précautions, ou est-ce qu'elle va être immergée dans l'océan Indien? Ça, c'est la grosse question.
Jackie Bonnemain de Robin des Bois avec Ersin Lebovitch. L'épidémie de coronavirus continue de perdre du terrain. La pression dans les services de réanimation des hôpitaux continue à baisser, tout comme le nombre de nouvelles contaminations. 10 675 nouveaux cas hier, près de 2000 cas en moins en 24 heures. À partir de demain, la vaccination sera ouverte à tous les adultes et on parle de plus en plus de la possibilité de retirer le masque à l'extérieur. Le professeur Didier Houssin, président du comité d'urgence coronavirus de l'OMS, était ce matin l'invité du 6-9 d'Éric Delvaux et Patrice Martin. Selon lui, la question des variants reste préoccupante, même si la situation s'améliore en Europe.
Tout variant peut être une menace. S'il s'avère plus dangereux, plus pathogène ou plus transmissible, il semble que ce soit le cas peut-être pour ce variant qui vient du sous-continent indien à travers la communauté indienne pakistanaise en Angleterre. Donc effectivement, on peut redouter que ce variant, par exemple, échappe à l'effet d'un vaccin. Donc c'est préoccupant et on comprend les mesures pour essayer de limiter sa propagation. Mais je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter de manière exagérée.
Ce qui est inquiétant avec lui, c'est moins sa dangerosité que sa contagiosité, même si les deux se rejoignent à un moment.
Exactement, les deux se rejoignent. C'est vrai que le pouvoir de contagion est extrêmement important. Celui du coronavirus est, je dirais, assez net. Moins que la rougeole, mais quand même assez contagieux. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la situation s'améliore en Europe. Elle ne s'améliore pas dans le sous-continent indien et dans la zone pacifique. Or, pour qu'une pandémie soit contrôlée, il faut qu'elle soit contrôlée à l'échelle de la planète entière.
Didier Houssin avec Éric Delvaux. L'actualité en France, c'est également aujourd'hui cette manifestation à Paris pour le droit au logement et pour protester contre la fin de la trêve hivernale à l'appel d'une quarantaine d'associations et de syndicats. Les manifestants réclament un moratoire pour éviter les milliers d'expulsions prévues d'ici la fin de l'année. Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association Droit au logement avec Yann Gallic.
Il y a 30 000 locataires là qui sont menacés d'expulsion. Et donc, pour nous, compte tenu de la crise dans laquelle nous nous trouvons, il aurait fallu suspendre tout simplement les expulsions locatives quand il n'y a pas de solution de relogement. Globalement, on a une situation qui s'aggrave. De plus en plus de locataires qui sont en difficulté, qui payent des loyers de plus en plus élevés. Les APL ont baissé aussi ces dernières années. Les loyers ont augmenté. Et puis, par ailleurs, les milieux d'immobilier font la fête. Ils ont jamais gagné autant d'argent l'année dernière. C'est incroyable, on n'en revient pas. Et donc, on a aujourd'hui une situation dramatique qui n'est pas prise en compte par le gouvernement. Effectivement, il y aura maintien des hébergements hivernaux. Ils vont être maintenus toute l'année. Très bien, dont acte. Mais il y a de plus en plus de sans-abri et les politiques du logement que nous connaissons aujourd'hui produisent massivement du sans-abrisme et de la crise.
Jean-Baptiste Hérault avec Yann Gallic. Le projet controversé de stockage de déchets nucléaires à Bure avance à petits pas. Et pour gérer ces déchets radioactifs, un robot chien a été déployé sur le futur site d'enfouissement. Ce robot de l'école des mines de Nancy évolue à 500 mètres sous terre sur le site du laboratoire de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs qui gère ce site ultra sécurisé. L'opération a pour but de démontrer la faisabilité du projet d'enfouissement des déchets les plus radioactifs à Bure dans la Meuse. Reportage Valentin Dunat.
Pour accéder à ce laboratoire souterrain, il faut passer plusieurs portiques de sécurité et s'équiper notamment d'un appareil respiratoire de secours. Après 5 minutes de descente, nous voilà à 500 mètres sous terre. Là, les ingénieurs étudient les propriétés physiques de la roche pour démontrer qu'il est possible de stocker pendant des milliers d'années nos déchets les plus radioactifs. Sacrée mission. Et pour ce faire, le robot peut être très utile.
Grâce aux caméras qu'on a sur ce robot-là, on peut faire des zooms très précis.
Ce robot chien à quatre pattes, il ressemble vraiment à un jaguar. Sa première qualité, c'est donc d'aller là où les humains s'arrêtent. Quentin Hélène est ingénieur de recherche à l'école des mines de Nancy.
On a une zone où c'est dangereux d'y aller. Il peut y avoir des risques d'éboulement. Mais l'idée d'avoir un robot comme celui-là, c'est justement de ne pas risquer la vie d'une personne.
Les pros appellent ça l'industrie 4.0. Reste à savoir si ce robot pourra travailler dans des zones radioactives. Réponse de Guillaume Herman, ingénieur de recherche à l'ANDRA.
Le principe de radioactivité, c'est que ça abîme très vite tous les composants électroniques. C'est pour ça que, par exemple, nos homologues japonais ont des difficultés à envoyer des robots sur Fukushima.
L'idée, c'est aussi de ne pas abîmer ce petit bijou de technologie, un robot qui vaut près de 100 000 euros.
Et le procès pour association de malfaiteurs de manifestants contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure débute mardi pour 3 jours au tribunal correctionnel de Bar-le-Duc dans la Meuse. Et puis cette information en écho à ce que nous vous disions avec Antoine Glaser et Christian Chesneau sur le Mali. Une attaque ce matin à présumé djihadiste a fait 5 morts dans le sud du Mali. Information donnée par les responsables de la sécurité malienne. Le tennis maintenant avec notre rendez-vous annuel en terre battue. Roland-Garros débute aujourd'hui avec des contraintes sanitaires mais aussi avec du public. 5000 personnes par jour pour l'instant sur le plan sportif. Il y a cette année encore un grand favori, un peu toujours le même, Raphaël Nadal en compétition pour une 14e victoire à Roland-Garros. En direct de Roland-Garros, on retrouve Fabrice Abgral. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Premier coup de raquette ce matin et une victoire chez les femmes de la nouvelle star du tennis mondial, Naomi Osaka.
La numéro 2 mondiale, en effet, qualifiée pour le deuxième tour. La japonaise a battu la roumaine Patricia Mariatic, 63e mondiale en 2-7, 6-4 et 7-6. Naomi Osaka a déjà remporté 4 tournois du Grand Chelem, 2 à Melbourne et 2 à l'US Open. Mais à Roland-Garros, attention, elle n'a jamais dépassé le troisième tour.
Une journée chargée aujourd'hui à Roland-Garros, Fabrice Agral, puisque 9 Français sont en compétition depuis ce matin.
Oui, et à l'instant même, Grégoire Barrère vient d'être éliminé par l'Italien Fabio Fognini, 29e joueur mondial en 3-7. Clara Burel, la révélation de l'année dernière, ex numéro 1 junior en 2018 et aujourd'hui 146e mondial, est opposée à Kovinic, la Monténégrine. Et à l'instant même, vous tombez bien, Clara Burel vient d'être éliminée par la Monténégrine, classée 62e mondial en 2-7, 6-3, 7-6. Donc Clara Burel éliminée au premier tour. En revanche, ça se passe passe très bien pour Enzo Cuoco. Alors lui, il est 177e mondial, il est invité par les organisateurs et il est opposé à un Bélarusse, Egor Gerasimov. Lui, il est 78e mondial, 99 places d'écart entre les deux joueurs. Et pour l'instant, avantage Enzo Cuoco qui a remporté les deux premiers sets et il a fait le break dans la troisième manche. 5 jeux à 2, Enzo Cuoco est donc à la porte d'un véritable exploit. Donc Enzo Cuoco bien parti pour se qualifier pour le deuxième tour.
Fabrice Abgral, merci. En direct de Roland-Garros à la porte d'Auteuil. Et puis on a appris ce matin la mort du tout jeune pilote suisse Jason Dupasquier après un accident hier en qualification du Grand Prix de moto d'Italie. Jason Dupasquier, 19 ans, a succombé à ses blessures. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Dans les grandes lignes, une météo plutôt ensoleillée avec par endroits une ambiance tout de même un peu plus mitigée, comme par exemple sur la Bretagne avec à la clé des ondées éparses, des Alpes du Sud à la Corse, des averses vont se déclencher cet après-midi avec possibilité d'orage sur le Mercantour, et puis l'ambiance sera franchement plus orageuse dans le quart sud-ouest, d'abord sur le relief des Pyrénées et du Massif central, ensuite en plaine, et notez que la nuit prochaine, des averses orageuses vont survoler le golfe du Lion et la basse vallée du Rhône. Les températures de saison du nord de la Loire au nord-est, avec 22 à 24 degrés, atteindront 25 sur le Poitou-Charentes, le Limousin et en Rhône-Alpes, jusqu'à 27 près de la Garonne et 28 dans la vallée du Tête et sur le Gard. Demain, les valeurs vont partout gagner 2 à 3 degrés, avec toujours du soleil et un risque orageux pour le quart sud-est.
Jean-Michel Golinski de Météo France.